c'est le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Un ministre de la Justice mis en examen, c'est une première. Éric Dupond-Moretti est soupçonné par la Cour de justice de la République de prise illégale d'intérêt. Il a toujours la confiance du Premier ministre. Près de 130 morts au moins en Allemagne et en Belgique, violemment frappés par des inondations. La catastrophe donne également lieu à une mobilisation populaire, notamment de la jeunesse. Illustration près de Liège dans ce journal. Et puis à suivre, le retour du port du masque en extérieur dans les Pyrénées-Orientales est mal vécu. Un avion vient chercher les derniers Français de Kaboul aujourd'hui. Et le palmarès du Festival de Cannes, c'est ce soir. Nous parlons cinéma tout à l'heure.
Dans 20 minutes, notre invité sera la vice-présidente de Sorbonne Université pour parler d'orientation et de Parcoursup. La dernière phase s'est achevée hier soir. Marie-Céline Daniel sera à notre micro à 7h50.
France Inter.
C'est une première pour un ministre de la Justice en exercice. Éric Dupond-Moretti est mis en examen.
Le garde des Sceaux a entendu pendant 6 heures hier à la Cour de justice de la République. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt de par des procédures lancées contre des magistrats en tant que ministre dans des dossiers dans lesquels il était autrefois sollicité en tant qu'avocat. Éric Dupond-Moretti a immédiatement reçu le soutien du Premier ministre et Corinne Audouin, ses avocats prévoient rapidement de contre-attaquer.
L'avantage de cette mise en examen, c'est qu'elle donne à la défense d'Éric Dupond-Moretti l'accès au dossier d'instruction et la possibilité de demander des actes. Première demande, déjà annoncée pour la semaine prochaine, une requête en nullité de cette mise en examen. Les avocats du garde des Sceaux vont aussi remettre sur le tapis la question du rôle joué par François Molins dans cette affaire. Le procureur général de la Cour de cassation, qui représente l'accusation dans l'enquête, avait été consulté par le cabinet du ministre pour l'une des décisions qui lui est aujourd'hui reprochée. En l'occurrence, l'ouverture d'une enquête administrative en septembre dernier à l'encontre de 3 magistrats du parquet national financier. De sources judiciaires, on explique que François Molins a seulement donné un avis technique, mais la défense d'Éric Dupond-Moretti ne compte pas en rester là et va demander son audition comme témoin. Du côté des plaignants, à l'origine de la saisine de la CJR, l'Union syndicale des magistrats rappelle qu'une mise en examen signifie qu'il existe des indices graves ou concordants à son encontre et qu'on est donc loin de l'affaire montée de toutes pièces dénoncée par Éric Dupond-Moretti.
Corinne Audouin et de son côté, le président ne fait pas de commentaires. Emmanuel Macron, en revanche, se dit solidaire de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique. Les terribles inondations d'il y a 2 jours ont fait au moins 128 morts, dont 108 rien qu'en Allemagne. Les crues ont également tué en Belgique, avec un bilan là aussi provisoire d'une 20aine de morts. La région de Liège est très touchée. Les pompiers, pas assez nombreux, n'ont pas pu sauver tout le monde. Dans certaines localités dévastées par ces crues éclairs, ce sont des jeunes qui se sont mobilisés pour apporter du secours. Le récit sur place d'Angélique Bois.
Sur la photo d'un téléphone, Rémi et Isabelle montrent leur maison dévastée. Tous deux restent hantés par ces heures d'angoisse où l'eau est si rapidement montée.
Il ne me restait plus qu'une marche dans mes escaliers pour avoir de l'eau au premier étage. Et quand les pompiers sont arrivés pour nous secourir, il y avait une énorme fuite de gaz. J'ai une petite fille de 7 ans, c'est elle-même qui hurlait après les secours. Enfin, franchement, on a vu vraiment la mort de près, vraiment.
Ce sont les cris de nos enfants qui ont alerté les pompiers, totalement débordés, dit Rémi. Il a fallu nous attacher avec des cordes au bateau à cause des courants.
Comme si c'était une scène de film. Toutes les voitures retournaient, j'ai vu des corps aussi. J'en ai des frissons, je dois vous parler.
Les frissons, Anthony, 28 ans, les yeux fatigués, en a encore. Quand il raconte la brusque montée des eaux, le manque de secouristes et cette bande de jeunes du quartier à qui il s'est joint pour tenter de sauver des gens.
On essayait d'aider le maximum que pouvaient les gens. On entendait des enfants crier sur des toits. Malheureusement, le courant était trop fort. On essayait de passer avec des cordes, même avec des treuils dans des voitures. On a pris des poutres en bois pour faire des flotteurs, des petits bateaux gonflables qu'on met souvent à la mer.
Des tentatives souvent vaines. Avec sa voiture, Anthony a ensuite fait des navettes entre la zone inondée et les centres de secours pour y déposer des rescapés. Liège, Angélique Bouin, France Inter.
La Belgique observera d'ailleurs une journée de deuil national mardi prochain.
Pour la première fois depuis le mois de mai, la barre des 5000 nouveaux cas de Covid par jour est franchie.
On est même largement au-dessus avec plus 67% de nouveaux cas cette semaine. Flambée alimentée par le variant Delta et inégalement répartie sur le territoire, les Pyrénées-Orientales enregistrent le taux d'incidence le plus élevé de France, avec 258,8 cas pour 100 000 habitants. Alors dès aujourd'hui, le port du masque en extérieur est de nouveau obligatoire. C'est assez mal vécu dans le secteur du tourisme stratégique dans le département. Julie Paco, beaucoup craignent des annulations en cascade.
Entre les mails et le téléphone, Sylvia Montesino ne sait plus trop où donner de la tête.
Hôtel restaurant logé Chamette, bonjour.
Elle gère un petit hôtel de 10 chambres à Argelès-sur-Mer.
Pour l'instant, pas vraiment d'incidence sur des annulations de séjour, mais plutôt des interrogations. Je suis plutôt concernée par du report de séjour. Et donc là, on se retrouve effectivement avec quelques places encore de disponibles sur la première quinzaine d'août, alors que les années précédentes, ce n'est pas du tout le cas, quoi.
Des clients qui repoussent leur séjour ou qui attendent la dernière minute pour réserver, Fabrice Lalouille est aussi confronté. Il est propriétaire d'un camping à Saint-Génis-des-Fontaines.
On est très léger en emplacement nu, on est bon en mobil-home, mais en emplacement nu, ça venait tous les jours avec des gens qui n'avaient pas réservé. Là, si vous voulez, les gens, eh ben, ils vont préférer aller dans l'Aude. C'est toujours la stigmatisation qui est embêtante.
Car les professionnels se sentent pointés du doigt.
Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera un autre département.
Brice Sanac, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales.
C'est un taux d'incidence qui est important, c'est sûr. C'est mécanique. Aujourd'hui, c'est simplement dû au fait qu'on a un département de 450 000 habitants qui passe à 1 million d'habitants pendant l'été. Pour l'instant, la seule conséquence des mesures prises, c'est le port du masque sur la voie publique. Et vraiment, voilà, on ne mettra pas en danger ni notre clientèle, ni nos collaborateurs.
Mais plusieurs hôteliers craignent maintenant qu'un couvre-feu soit rapidement imposé dans le département et avec lui des conséquences dramatiques sur l'activité touristique.
Julie Paco, côté vaccin, pour le moment, près de 44% des Français ont reçu leurs deux doses. En revanche, une majorité d'entre eux approuve l'extension du pass sanitaire. 60% dans un sondage Ipsos Soprasteria. 69% des Français approuvent aussi la vaccination obligatoire pour les soignants. Des soignants, il devrait y en avoir dans les grandes villes aujourd'hui, avec de nouvelles manifestations anti-pass sanitaire attendues un peu partout. Et puis, alerte à Tokyo, un premier cas de Covid détecté dans le village olympique. On ne sait pas s'il s'agit d'un athlète, mais ça jette un froid sur des Olympiades déjà appelées à devenir les plus tristes de l'histoire. Le public n'y sera pas autorisé.
7h37 à l'étranger toujours. La France fait évacuer ses derniers ressortissants en Afghanistan.
Un vol affrété par Paris vient les chercher aujourd'hui à Kaboul. Les talibans progressent très rapidement et dangereusement dans le pays à la faveur du retrait militaire américain. D'ailleurs, Claude Guibal, la France maintiendra son ambassade, mais la situation inquiète.
Le mail est arrivé le 13 juillet sur les adresses des Français répertoriés auprès des autorités consulaires en Afghanistan. Un vol spécial, gratuit, le dernier dont la France puisse assurer le décollage en toute sécurité de Kaboul. Ensuite, il sera impossible de pouvoir garantir d'apporter secours et assistance aux Français restés sur place. Une petite centaine de personnes s'étaient hier soir enregistrées pour ce départ. Plus de la moitié est composée d'Afghans qui ont travaillé avec la France, qui ont demandé à partir et dont la mise en danger est importante s'ils restent sur place, du personnel d'ambassade, des enseignants accompagnés par leurs familles, mais pas les auxiliaires de l'armée française dont les dossiers dépendent du ministère des Armées. Depuis le 26 avril, la France demande aux ressortissants de quitter le pays. Elle estime que la situation est aujourd'hui trop dégradée alors que les talibans continuent leur avancée en prenant le contrôle de vastes parts du pays et en asphyxiant Kaboul après la prise de gros postes frontières.
Claude Guibal, on saura ce soir qui succède à Parasite au palmarès du Festival de Cannes.
De Spike Lee rend son verdict. Effectivement, 24 longs métrages se disputent la prestigieuse palme, dont 6 sont réalisés par des Français. Hier, le dernier film en compétition a été projeté, un film australien, Corinne Pellissier, Nitram de Justin Kurzel, inspiré de la tuerie de masse de Port-Arthur.
C'est un sujet brûlant aux États-Unis auquel Spike Lee, le président du jury, s'est toujours montré particulièrement sensible. Le contrôle des armes à feu, au cœur ici d'un film qui fait polémique en Australie, car raconté 25 ans plus tard, non pas du point de vue des victimes de la fusillade, mais en se concentrant sur le profil du tueur. Martin Bryant, alias Nitram en verlan, que l'on découvre sous les traits du comédien Caleb Landry-Jones, un physique atypique, un jeu tendu et un portrait au final qui laisse le spectateur mal à l'aise. Choqué pour interpeller Justin Kurzel, le réalisateur, n'imaginait pas s'y prendre autrement.
Après la tuerie de Port-Arthur, le choc était tel qu'il n'a fallu que 12 jours pour renforcer le contrôle des armes à feu. Mais aujourd'hui, ce qui me choque le plus, c'est qu'on reparte en arrière. Des tragédies comme la nôtre se produisent tous les jours aux États-Unis. Ce que nous voulions avec ce film, c'était relancer le débat autour de la législation, pas uniquement chez nous, mais dans le monde entier.
Nitram est le premier film australien depuis 6 ans en lice pour une palme d'or.
Voilà, Justin Kurzel, un Australien en France, pendant qu'il y a des Français en Australie. Le 15 de France qui affronte les Wallabies tout à l'heure à Brisbane. Coup d'envoi de la rencontre à midi. C'est le troisième match de la tournée. Pour l'instant, une victoire partout. C'est un
noté.
Peu la belle.
Quoi. Voilà. Absolument, c'est noté. Merci Raphaël Delvolvé. On prend des nouvelles du ciel en ce samedi 17 juillet.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et c'est avec Jean-Pierre Hameau. Jean-Pierre, déjà beaucoup de soleil dans l'Est et le Sud.
Oui, effectivement, Amélie, avec le retour de l'anticyclone des Açores, vous allez profiter dès ce matin d'un bon ensoleillement entre le Cotentin et la Bretagne, mais aussi des Pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, sans oublier l'Occitanie, la région PACA et la Corse. En revanche, dans les autres régions, avec une masse d'air encore trop humide, la grisaille va se maintenir ce matin. Prévoyez tout de même quelques éclaircies cet après-midi. Le soleil va même gagner la partie entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Notez de faibles ondées attendues en cours d'après-midi près des frontières de l'Est. Le tonnerre pourrait même gronder avant la fin de la journée vers la plaine d'Alsace, mais aussi au-dessus de la montagne Corse et puis Mistral et Tramontane restent sensibles, avec des rafales voisines de 80 km/h.
Et merci, merci Jean-Pierre. On peut enfin annoncer des températures estivales.
Oui, absolument. On attend par exemple 25 degrés à Brest, Nancy et Dijon, 26 dans les rues de la capitale comme à Strasbourg et Lyon. Prévoyez 28 degrés à Nantes et La Rochelle, 29 à Bordeaux et Toulouse, 31 à Bastia et 32 à Perpignan.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.